Nous recevons donc aujourd'hui M. Roland Moreno, qui est autodidacte de formation, si on peut dire, qui est fondateur et président depuis 1974 d'Innovatron, c'est aussi l'inventeur de la carte à puce, que vous avez donc tous dans vos poches, et auteur de deux ouvrages parus chez Belfond, Eureka en 1988, et Théorie du bordel ambiant en 1990, que vous trouvez aussi chez Belfond. Voilà, je lui laisse la parole pour 50 minutes et je vous remercie.
Bon, donc c'est un exercice difficile pour moi parce que j'ai déjà fait des conférences, mais en général devant un public spécialisé dans quelque chose, que ce soit la finance, que ce soit l'électronique, les fonctionnaires de Bruxelles, Dieu sait quoi, alors que là c'est visiblement complètement hétérogène. Alors c'est l'inconvénient que ça présente, c'est que je vais devoir choisir entre parler petit nègre ou parler le vrai jargon de cette science dont il est question, qui est la microélectronique. Et s'y ajoute une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a intitulé dans le programme cette conférence comme portant sur la biopuce, ce qui n'est pas du tout ce dont je vais parler. Alors j'ai trouvé dans le taxi en arrivant un moyen de m'y rattacher quand même. Bon, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord tordre son cou à cette idée de biopuce. J'ai rien à en dire, simplement parce que, malgré ma veille technologique intensive, il ne se passe rien sur ce front-là, c'est-à-dire que c'est une espèce de fantasme journalistique. Il n'y en a pas, il n'y en a pas qui fonctionnent, il n'y en aura pas qui fonctionneront avant peut-être, 50 ans. Donc oublions pour ne parler que de la puce telle qu'elle est, c'est-à-dire elle n'est pas du tout vivante, elle est en silicium, c'est-à-dire ce qu'on obtient en faisant fondre du sable, et en la traitant de façon suffisante, on arrive à lui faire dire « papa-maman ». Alors, vous savez qu'il y a des puces partout. Moi, on me bombarde en général le titre d'inventeur de la puce, c'est tout à fait exagéré, puisque la puce, c'est une immense chose, et moi, je n'ai inventé que la carte à puce. Autrement dit, je ne suis pour rien dans l'invention du circuit intégré, celui-là même dont nous sommes entourés, quel que soit l'appareil, le Minitel, l'ordinateur, la télécommande, le radio-réveil, bon, partout, il y a ce qu'on appelle une puce, autrement dit, un petit carré de silicium plus petit que l'ongle du petit doigt, avec de très nombreuses petites pattes qui font un peu penser à une puce. Bon, en anglais, on dit « chip », ce qui est une autre façon de décrire le phénomène indescriptible, parce que vraiment, on n'aurait pas pu imaginer, il y a par exemple 100 ans, qu'une telle chose existerait. Vous pouvez vous en faire, enfin, on peut s'en faire une idée, ne serait-ce qu'en consultant Internet, qui est de loin la démonstration la plus spectaculaire des possibilités de l'électronique. Il y a des puces vraiment partout, c'est-à-dire qu'il y a des microprocesseurs, l'intelligence proprement dite, des mémoires, c'est une notion qui donne un peu qui peut même inquiéter l'idée de mémoire. Ça veut dire quoi, mémoire? La mémoire, c'est les flics. Hein, vous connaissez la formule, une bonne police, c'est d'abord une bonne mémoire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, justement, je crois que c'est par là que je peux attaquer le sujet biopuce, en vous proposant d'examiner une différence que je trouve spectaculaire entre les mémoires humaines et les mémoires artificielles. En tout cas, moi, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ma carte à puce. J'étais fasciné depuis plusieurs années par le phénomène de la mémoire. Comment se fait-il qu'il soit si difficile d'apprendre? J'en sais quelque chose, je me suis fait jeter de l'université au bout d'un an. comment se fait-il qu'il soit impossible d'oublier sur commande? On n'a absolument pas cette possibilité. Donc aujourd'hui, j'ai une veste jaune. Demain, si vous voulez chasser ce souvenir de votre mémoire, ça vous sera complètement impossible. Vous ne savez pas quel genre de recette il faudra employer pour dire à votre cerveau « oubliez la couleur de la veste à Moreno ». Parce qu'elle prend de la place pour rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. Et ça doit bien prendre de la place. Eh bien, on ne peut pas. Il n'y a pas d'intersection entre la volonté et la mémoire. Ce sont deux mondes qui ne se croisent pas. Alors, les mémoires artificielles, c'est quoi? C'est la plus simple qu'on puisse imaginer. Ben, c'est une feuille de papier avec le crayon qui va avec. Une ardoise, une vitre sur laquelle il y a de la buée. Tout ça, ce sont des mémoires, au sens où on peut écrire une information dessus et elle reste. Elle reste plus ou moins longtemps. Toutes ces mémoires sont effaçables. Il suffit de frotter avec un chiffon et la buée s'évapore. Rien de tel n'est concevable avec cette mémoire si intéressante qu'est la nôtre. Entre autres aspects qui la rendent intéressante, vous avez peut-être remarqué que la mémoire humaine est infinie. Ce n'est pas si fréquent qu'on rencontre l'infini dans le domaine des sciences quotidiennes. Elle est infinie, je veux dire par là que ce soir, ayant déjà dans notre tête tout ce que nous y avons déjà, nous allons voir un film avec beaucoup d'action, je ne sais pas quoi, Le jour le plus long, ou Le parrain, ou Apocalypse, non. On sort de la salle de cinéma avec tout le film dans la tête, et pour autant, ça n'a pas chassé de précédents souvenirs pour prendre la place. Et on grandit, on mûrit, on vieillit comme ça, avec la tête de plus en plus pleine. On peut, sans abus de langage, parler d'infini, tant qu'on n'aura pas démontré que lorsqu'une donnée rentre, il y en a une autre qui sort. Alors au contraire, les mémoires artificielles, elles sont absolument finies, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire qu'elles ont un espace parfaitement délimité. On sait tous, par exemple, en utilisant une cassette de magnétoscope, que lorsque la cassette est finie, lorsqu'elle est en bout, on ne peut pas ajouter une minute ou même une seconde d'image. Elle est finie, et ni. Ce qui n'est, encore une fois, pas le cas donc avec la nôtre de mémoire. Je ne parle pas de la mémoire des animaux, je n'y connais rien. Ne parlons que de la mémoire humaine. Et c'est donc sur la base de cet étonnement, cette espèce de contradiction qui n'est pas un parallèle, que j'ai voulu créer une mémoire artificielle qui aurait, en quelque sorte, les traits de fonctionnement de la mémoire humaine. Autrement dit, cette irréversibilité dont je parlais tout à l'heure. Je vous préviens, irréversibilité, c'est mon mot fétiche. Je l'emploie peut-être plus souvent qu'à mon tour. Mais ça caractérise vraiment très 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 bien la chose dont nous parlons ce soir, puisque finalement, ce n'est pas de la biopuce qu'on parle, mais c'est de la carte à puce. Ce qui la caractérise, c'est le fait qu'une information qui y est enregistrée, par exemple sur notre carte bleue, ça va être le RIB, est irréversiblement enregistrée. On ne peut pas envisager, on ne peut pas concevoir de méthode pour effacer cette information. Donc on peut dire, qu'une carte bleue a deux états, ou bien elle est en bon état, et l'information qu'elle contient est vraie, ou bien on l'a détruite à coup de marteau et elle ne contient plus rien. Mais elle n'a pas d'état intermédiaire. C'est très pratique, les informaticiens adorent les situations stables. Et ils ont horreur du flou. Et là, justement, donc, il y a cette caractéristique donc, d'authenticité de l'information. Alors si, par exemple, dans ma carte à puce, il est inscrit... mon adresse, et que je déménage, Eh bien, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est inscrire ma nouvelle adresse à côté, mais sans pouvoir effacer la première. Donc, on va juste adopter un code qui signifie que cette première adresse n'est plus valable et que l'adresse qui compte, c'est la nouvelle. Alors, on en a une manifestation dans l'utilisation quotidienne par la carte de téléphone, tout simplement, qui a 50 unités ou qui a 120 unités. Et elle n'est pas susceptible, elle est absolument insusceptible de rechargement. Puisqu'une unité, vous devinez que ça consiste à écrire un point mémoire. J'ai un truc ici où on voit on voit une puce de près. Je ne sais pas si ça va rendre. Rien du tout. Ah si, on voit un petit quelque chose. Bon, alors cette surface, ça correspond à quelques bits de mémoire. Je rappelle que le bit, c'est l'unité élémentaire d'information, qui en anglais signifie binary digit, donc chiffre binaire. Là, je crois que sur cette carte, on en voit 4 ou 5. Sur cette illustration, on en voit 4 ou 5. Et c'est proprement inconcevable d'imaginer comment on peut réaliser une telle fonction. Je vais essayer de vous simplifier le processus parce qu'il comprend plus de 100 étapes. En gros, on part d'un disque de silicium qu'on a obtenu donc en faisant fondre du sable et on vient le graver en une centaine d'étapes successives. Des gravures qui sont de l'ordre de 1 millième de millimètre pour les motifs que l'on inscrit. On vient doper cette future puce avec des matériaux rares, un peu de bore, un peu de phosphore, un peu d'antimoine, un peu d'arsenic. On creuse des galeries, on creuse des tranchées, on édifie des fortifications qui font un millionième de millimètre de hauteur. Et à la fin du processus, on a, dans le cas de cette illustration, une mémoire. Ou, plus fort, on a ce qui s'appelle dans la vie quotidienne une puce, c'est-à-dire un microprocesseur. Quelque chose qui est capable d'intelligence. Intelligence, soit dit sans abus de langage, c'est-à-dire capable de commencer à faire de la traduction automatique, de la reconnaissance de forme, de la dictée, comme ça commence à se répandre maintenant sur les Macintosh et sur les PC. Donc un vrai travail de pure intelligence, encore une fois, sans aucun abus de langage. Alors, la carte à puce dans ce décor, elle occupe une toute petite place, parce que donc elle ne représente qu'un 10 millième des utilisations que l'on fait de la puce, de la microélectronique. Mais par contre, elle occupe une très grande place dans notre vie, à nous tous. Je suis convaincu que chacun d'entre vous a sur lui une ou deux cartes à moi dans sa poche, sans doute la carte bancaire, sans doute la carte téléphone, et peut-être bien la carte SIM du radiotéléphone. Tout ça, ce sont des cartes à puce. Chez vous, vous avez en outre la carte de votre décodeur Canal+, qui forme une quatrième application de l'invention. Alors, cette banalité de l'objet est très impressionnante parce qu'elle constitue un précédent dans l'histoire industrielle. Des inventions bien plus importantes que ma carte à puce existent, mais aucune n'a cette caractéristique d'être uniforme, d'être de la même forme. Prenons par exemple, je ne sais pas quoi, le velcro, le morceau qui est sur mes chaussures est différent de celui qui est sur les vôtres, le Dolby, on a tous un magnétophone à cassette sur lequel il y a écrit Dolby, mais le mien est noir, le vôtre est jaune. Ils n'ont pas la même forme, ils ne pèsent pas le même poids, alors que les cartes à puce sont toutes identiques. Et elles partagent toutes cette caractéristique d'être un identifiant qui transporte de l'argent. Hein, je crois qu'on peut résumer la carte à puce à ces deux fonctions. Et j'ai bien dit de l'argent, je n'ai pas dit des informations. Chacun sait que l'argent, ce sont des informations. Il n'y a qu'à voir le travail que fait une banque, elle ne fait que de traiter l'information. Mais en réalité, la carte est si complexe à faire, il est tellement inconcevable qu'elle soit contrefaite, que ça ne correspond qu'à un ou à l'autre des deux grandes préoccupations qui sont les nôtres, l'identification et tout simplement le portefeuille. Alors l'identification, il ne faut pas s'effrayer de ce mot parce qu'il a l'air un peu louche. L'identification, c'est tout simplement le processus par lequel, lorsqu'on paye avec la carte bleue, on compose son code. Son code est à 4 chiffres. Comme nous sommes 60 millions de Français, il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même code. Donc ce code ne nous identifie pas. Il faut plutôt le voir comme un mot de passe grâce auquel on dit à la puce on demande à la puce de travailler. Après quoi, une fois qu'elle est autorisée à travailler, elle va libérer la véritable identité du porteur, par exemple son relevé d'identité bancaire. Parlant d'identification, vous observerez qu'il y a un grand absent dans les applications de cette carte à puce, c'est la carte d'identité. Il ne faut pas s'en étonner, beaucoup de gens la réclament, beaucoup de gens me réclament la carte d'identité, la carte d'électeur à puce. Et je suis contre, et je le dis. La carte d'identité, c'est pour rester fidèle à un vieux traité qui réunit 17 pays dans le monde, qui interdit que des informations d'état civil ne soient pas directement lisibles par l'homme. Et ça me paraît être un principe très sage, qui, si on le méconnaissait, nous amènerait à transporter un objet contenant des espèces de secrets sur nous-mêmes. Donc voilà la principale raison pour laquelle il n'y a pas de carte d'identité à puce. Alors, carte d'électeur, c'est une situation un petit peu différente, mais je dirais que la démocratie est une chose très, très délicate, très, très raffinée, qui a mis des dizaines de siècles à s'établir, et que ce serait sans doute pas raisonnable de la faire s'acoquiner avec une trouvaille technologique des années 70. Tout ça pour gagner quoi ? Et avec bien sûr le risque qu'il y aurait en face de fraude électorale et de fraude électorale massive, parce que c'est électronique, et tout ce qui est électronique est massif. On aurait pu y penser pour le permis à points. Finalement, le permis à points, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à une carte de téléphone ? Ben non, parce que le permis de conduire, c'est presque partout dans le monde une pièce d'état civil. Vous savez par exemple que les Américains n'ont pas de carte d'identité. Ils ont la driver's license qui tient lieu d'identifiant. Alors, la seconde fonction, donc j'avais dit que c'était l'argent. C'est justement pour bénéficier de cette sécurité immense que c'est plutôt de l'argent qu'on va mettre sur la puce plutôt que, par exemple, les notes de son carnet scolaire ou des recettes de cuisine, toutes sortes de choses qui ne justifieraient pas qu'on mette en œuvre des moyens techniques énormes pour les frauder. Donc à la fin, voilà les deux fonctions de la carte, identité, comme celle par exemple du téléphone portable ou de Canal+, et argent. Bon, ben voilà, là c'est la carte bleue, c'est la carte de téléphone. Ouais, je parlais d'Amérique, là, il faut bien sûr savoir, parce que ça aussi c'est une des originalités de la carte à puce, c'est pas celle dont je suis le plus fier, c'est qu'elle est complètement inconnue aux États-Unis. Ça fait donc, cette invention a 26 ans cette année, ça fait 26 ans que les Américains s'en passent très bien. Alors c'est, bon, moi ça me fait tout triste parce que j'aime beaucoup ce que font les Américains. Or les Américains font tout. Il suffit de regarder un petit peu notre paysage et tous les objets qui comptent viennent des États-Unis et que des États-Unis. Prenons le Polaroid, prenons le Macintosh, prenons la pilule anticonceptionnelle, prenons le papier d'aluminium, le film plastique qu'on met dans les frigos, le Tampax, le Viagra. Toutes les grandes mutations auxquelles on a assisté depuis la deuxième moitié du siècle, c'est américain. Je ne cite même pas Ethernet, Internet, PostScript, les Blue Jeans, regardez, c'est quoi, c'est américain et c'est rien d'autre, et c'est porté par la planète entière. Donc, en gros, le progrès vient des États-Unis. Et donc, moi, j'ai pas encore été béni par les Américains. Le progrès vient des États-Unis, il vient un tout petit peu du Japon, la photo. On sait que les appareils photo viennent du Japon. Ils viennent marginalement d'Allemagne. Et puis c'est tout. Il n'y a rien qui vient d'Italie, rien qui vient d'Angleterre. Et puis bon, de France, il y a la carte à puce, mais elle n'est pas encore certifiée par Dieu Tout-Puissant. Il y a une raison d'ailleurs à ça, c'est que moi, quand j'ai inventé ça en 1974, c'était une époque où il fallait, pour demander le téléphone, il fallait compter sur 2 à 3 ans de délai quand on s'adressait au PTT. Donc j'ai inventé un machin permettant de payer sans liaison téléphonique. Les Américains avaient déjà des terminaux de paiement à liaison téléphonique. En France, ça relevait du rêve pratiquement. Et un des premiers noms de cette invention était coupe-fil. Parce qu'elle permet de couper le fil du téléphone et donc de faire de l'informatique tout à fait décentralisée. Les informations me concernant sont sur ma carte, dans ma poche, et elles ne sont pas sur un ordinateur central, qui était, dans les années 70 puis 80, la grande phobie, Big Brother. Alors bon, il va peut-être falloir mettre de l'eau dans notre vin, ce sujet, parce que maintenant il y a Internet, et Internet, ça a l'air de ressembler à Big Brother un peu. C'est un réseau mondial. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez Napster, c'est une manifestation étonnante d'Internet qui consiste à permettre à tous les internautes d'écouter la musique de tous les autres internautes. Donc il y a, par exemple, chez moi, dans ma discothèque, beaucoup de Jean-Sébastien Bach et beaucoup de Georges Brassens. Un internaute de Nouvelle-Zélande va se connecter à mon ordinateur et va écouter mes disques, ainsi que celui de tous les autres internautes. Donc la musique, si Napster réussit, et ils sont bien partis pour réussir, va devenir une espèce de denrée planétaire accessible à tout le monde. Bon, là, je m'éloigne parce que je veux parler de musique, mais j'aime bien parler de musique, c'est peut-être pour ça. J'étais parti de Big Brother. Il existe, par exemple, aux États-Unis, on va employer le mot, une fonction qui est le credit scoring, votre score en termes de solvabilité. Et c'est à ça qu'on se rattache, pour savoir si on peut vous vendre à crédit. Et là, ce sont autant d'ordinateurs, de disques durs qui tournent avec les performances économiques de chacun d'entre nous. Là, dans notre carte bleue française, les performances financières sont dans la carte. Et donc, elles ne sont pas supposées être connues d'une tierce personne qui voudrait s'y intéresser. Alors, ceci étant, il n'y a pas que la France et les États-Unis, il y a aussi le reste du monde. Alors, je dois dire, pour compenser mon absence des États-Unis, que je suis installé en Europe de l'Est, au Japon, en Australie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Europe du Nord. Voilà. Voilà les grands territoires de la carte à puce. Et tiens, d'ailleurs, j'ai profité pour vous glisser quelques données économiques là-dessus. Aujourd'hui, la France est encore de très loin le leader dans ce domaine d'activité. Nous avons, je crois, à peu près 25 000 emplois en France, emplois directs liés à la carte à puce. Et le leader mondial de la carte à puce, une société marseillaise du nom de Gem Plus, exerce 85% de son activité à l'international. 85%, ça veut dire qu'ils arrosent l'Amérique latine, le Moyen-Orient, etc. Une autre source industrielle importante, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne nous talonne, elle voudrait nous damer le pion en matière d'utilisation de la carte à puce. Par exemple, ils ont un porte-monnaie que nous n'avons pas, qui s'appelle Geldkarte, qui est répandu à 60 millions d'exemplaires. La Chine aussi est un territoire important, parce que tout simplement il n'y a pas le téléphone, et là-bas c'est le téléphone portable qui tient lieu d'infrastructure. Rien que Gem Plus et Schlumberger ont, je crois, 4 usines en Chine pour faire des cartes à puce. Moi, j'aime bien cet aspect économique du processus de l'invention de la carte à puce, c'est-à-dire le fait que, à la fin, c'est un objet utile, c'est un objet, citoyen, c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans notre système économique, et il ne présente pas des caractéristiques de gadget, alors que c'est si facile de faire des gadgets avec l'électronique d'aujourd'hui. Prenez les consoles de jeux ou les Tamagotchi, d'authentiques gadgets. Là, la carte remplit vraiment une fonction. Une fonction que ne remplissent pas les autres supports d'information. Par exemple, on ne pourrait pas mettre dans un téléphone portable une carte magnétique. J'ai oublié de préciser que magnétique, c'est ce qui existait avant la carte à puce. Alors voilà encore une révolution phénoménale qui nous vient, elle aussi, bien sûr, des États-Unis, le téléphone cellulaire. En France, on dit le portable, mais enfin, la dénomination américaine cellulaire est meilleure. Voilà quelque chose qui est bien en train de révolutionner non seulement notre vie, mais même les quelques dernières années de notre vie. C'est très récemment, quoi, c'est arrivé. On se demande comment ça pourrait aller plus loin que là où nous en sommes. D'ailleurs, c'est frappant qu'il n'y ait pas encore une sonnerie de portable qui ait retenti. Mais c'est quelque chose à quoi nous sommes habitués, puis c'est très bien, moi je suis pour le portable. Je polémique contre les défenseurs d'un certain snobisme consistant à trouver que c'est mal élevé. Moi je trouve ça très bien, le téléphone portable. Vous avez remarqué que grâce au téléphone portable, les gens sourient dans la rue. Parce que quand on parle au téléphone, souvent on sourit. Alors comme on parle au téléphone dans la rue, on sourit. Ben voilà, c'est du bénéfice. C'est bon à prendre. Mais non, je pourrais parler sans m'arrêter du téléphone portable, tellement je trouve cette fonction majeure. Mais il faut bien reconnaître qu'elle s'inscrit dans le champ de mondialisation, de village global que représente pour le coup Internet. Hein, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous y mettre si ce n'est déjà fait. Hein, c'est quelque chose qui ne fait que commencer. Ce n'est certainement pas une mode qui passera. Et j'ai du mal à imaginer ce que sera notre société, on va dire, dans 15 ans, quand il y aura 1500 fois plus d'Internet qu'aujourd'hui. Vous avez remarqué que, par exemple, les annonceurs, dans leur campagne publicitaire, ne font plus suivre leur slogan de 3615 Renault ou 3615 Peugeot. Maintenant, c'est http://renault.com. Et le Minitel est derrière nous. Quoi. Derrière nous, c'était quelque chose de très chouette à avoir créé pour faciliter la pédagogie de l'informatique. Mine de rien, avec le Minitel, on se transforme en opérateur de téléinformatique. L'informatique de réseau, on a un écran, on a un clavier. Et ça date de quand ? 76, je crois. Et les grandes années du Minitel, c'est, disons, 85-90. Bon, maintenant, c'est effectivement derrière. Le Minitel marque un des rendez-vous manqués avec la carte à puce. Le Minitel est les tout débuts de la télévision payante. Canal+, en 1983, la carte à puce n'était pas prête. Donc, Canal+, a été obligé de fabriquer un petit décodeur, vous en souvenez peut-être, avec un tout petit clavier sur lequel il fallait entrer chaque mois son code. Le Minitel était prévu, mais l'industrie n'a pas été assez réactive, pour être activé par carte à puce, c'est-à-dire pour être payable par carte à puce. Les industriels n'ont pas été prêts et on a inventé le kiosque. Le kiosque, c'est-à-dire le 3615, qui est quelque chose de déplorable. Déplorable parce que c'est une gigantesque masse d'argent, de l'ordre de 60 francs l'heure. 2/3 pour le serveur d'information, 1/3 pour France Télécom. Et les enfants, par exemple, au mois de décembre, qui consultent un 3615 Père Noël pendant tout un mercredi, ce qui fait la facture que vous imaginez pour les parents. La carte a été absente de là, et là, ça ne s'est pas rattrapé, puisque justement, le Minitel va passer à l'AS. Alors, la connexion entre carte à puce et télécommunication sera celle d'Internet, ça, à n'en pas douter. On a beaucoup entendu parler, depuis le début de l'année, de fraude à la carte bancaire liée à Internet. Il y a là un présupposé que je voudrais corriger parce qu'il est très répandu, consistant à croire que le numéro de carte bancaire que l'on a est un numéro secret. Il n'est pas secret. Il est gravé en caractère surmoulé en plastique. Il n'est pas secret. Ceci étant, les principales fraudes à la carte que l'on peut constater sont celles qui consistent à avoir lu un numéro de carte bancaire et à faire un achat par correspondance, puisque dans ce domaine, nous imitons bien sûr les États-Unis qui font ça depuis 40 ans, on paye avec un numéro de carte bancaire et la date d'expiration. Toutes informations qui ne sont pas secrètes, comme le code. Alors, on parle sans arrêt du commerce électronique, du e-commerce, du e-business. Il faut bien un moyen de paiement dans tout ça. Moi, je fais le pari que la carte à puce finira par s'imposer, notamment parce que, enfin, pour des raisons liées au calendrier, l'invention de la carte à puce date donc de 1974, et mes brevets expirent ce mois-ci. Le 13 septembre prochain, mon brevet sera dans le domaine public. Alors, il paraît que c'est le moment que choisiront les Américains pour enfin l'adopter. Mais on me le dit avec tellement d'insistance que je finis par y croire. Au début, je trouvais ça ridicule, parce que la royalty... tiens, je vais vous dire un mot de comment un inventeur gagne sa vie. La royalty, c'est vraiment pas lourd. Prenez une carte de téléphone qu'on achète, disons, 50 francs au bureau de tabac. L'objet lui-même, coûte 2 francs à faire. On y met pour 3 francs de publicité, au recto. Le buraliste gagne 2,50 francs. Et l'inventeur gagne 4 centimes. Il faut connaître cette échelle parce qu'il y a souvent un mystère autour du brevet, de l'invention, etc. On ne sait pas très bien si on manipule des méga-francs ou des kilos-dollars. En l'occurrence, c'est 4 centimes par carte. Alors, Certes, à partir du 13 septembre prochain, il n'y aura plus à payer ces 4 centimes par carte. Je crois qu'il s'agit plutôt, dans le fonctionnement des Américains, du syndrome qu'on appelle souvent le NIH, Not Invented Here, le truc qui n'a pas été inventé ici. Je suis convaincu que j'aurais été, on va dire, italien, je n'aurais pas imposé la carte à puce en France. Je suis tout à fait convaincu qu'elle a été accueillie à bras ouverts, pas parce que j'étais français. Et j'aurais été n'importe quel émigrant d'une autre région, ne serait-ce que de Belgique, le gouvernement n'aurait pas fait tous les efforts, parce que le gouvernement en a fait beaucoup. Hein, c'est une invention qui est née sous Giscard, qui s'est déployée sous Mitterrand et puis qui continue sous Chirac, et à chaque fois aidée, encouragée par le gouvernement, parce que ce n'est pas si fréquemment qu'on a l'occasion de tutoyer la microélectronique, hein, qui est la reine des sciences. Les fameux Intel Inside, les fameux microprocesseurs dont nous sommes entourés. Donc, l'idée a été accueillie dès son origine. Le lendemain matin, du soir où j'ai eu l'idée, je la présentais à un banquier qui a fait un bond, qui a dit « Vous vous rendez compte de ce que vous avez inventé ?» C'est inouï, c'est incroyable. Et il a lui-même ameuté toute la communauté bancaire française. Donc je ne peux pas dire que j'ai commencé sans une certaine dose de chance. Vous connaissez peut-être la formule d'Edison qui dit que l'invention, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Elle est tout à fait vraie. Hein, l'inspiration, l'idée, c'est tout à fait négligeable. Par contre, les efforts, c'est largement plus de 90%, et moi j'y ajoute et trois quarts de chance. Hein, la chance doit faire son office, et je n'aurais pas rencontré ce fameux banquier le lendemain matin du soir où j'ai eu l'idée. Je suis sûr que je ne serais pas parmi vous ce soir pour parler de la carte à puce. Il a vraiment fait le principal du travail. Alors bon, maintenant qu'elle est dans le domaine public, vous savez, l'invention, ça fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on commence par récompenser l'inventeur d'avoir fait avancer la science en lui donnant un brevet qui lui assure le monopole et grâce auquel, pendant une vingtaine d'années, il va gagner grassement sa vie. Et après quoi, au bout de 20 ans, il renvoie l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il abandonne le brevet pour remercier d'avoir été protégé, et désormais l'invention appartient à tout le monde. Alors c'est le cas, donc, par une coïncidence de calendrier, pour la carte à puce, à une semaine près. Une des sources de malentendus fréquentes qu'il y a dans ce domaine, ça consiste en fait à confondre ce qu'est cette invention, la carte à puce, et confondre ça avec tout simplement la mémoire. La mémoire comme celle qu'il y a par exemple sur une console de jeu, sur un piano électronique, sur un appareil photo numérique. Tout ceci, ce sont des mémoires, mais dépourvues de toute espèce de moyens de protection, ces fameux moyens de protection dont je parlais tout à l'heure, et qui rendent l'information et secrète. C'est le cas du code confidentiel, qui est dans la puce et qui n'en sort jamais, et irréversible. Vous vous souvenez peut-être, au mois de mars dernier, il y a eu toute une tempête médiatique autour d'un ingénieur informaticien du nom de Humpish qui a contourné le système de sécurité bancaire et a pu faire une fausse carte à puce avec laquelle il a acheté des carnets de tickets de métro. Et ça a fait beaucoup d'effet parce que nous sommes tous ultra sensibles à ce qui a trait à l'argent et à l'argent que nous portons dans notre poche. Et ça a fait donc immédiatement les gros titres de la presse. Et j'ai encore en tête les titres de Libération et du Monde qui disaient « La puce n'était pas inviolable ». Alors, je l'ai pris en pleine poitrine parce que ça m'atteignait directement. Et c'était faux. Alors, ce que j'ai fait, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai lancé un défi et j'ai offert 1 000 000 de francs à quiconque soit lirait le code secret d'une carte, soit écrirait une information dans une carte dans les zones qui sont protégées par mes brevets. Alors j'ai donné à cette épreuve une durée de 3 mois. J'ai donné à cette épreuve une durée de 3 mois parce que, bon voilà, pour laisser le temps de la manipulation, quoi. Et les 3 mois sont écoulés et j'ai gagné mon pari. Alors j'ai fait une nouba à tout casser pour célébrer ça. Pas tellement parce que j'étais tout content d'avoir gagné, mais surtout parce que je revenais de loin, parce que si j'avais perdu, j'aurais été tout à fait ridiculisé. Et bon, voilà, donc elle a passé cette épreuve du feu, parce que 1 000 000 est une somme absolument considérable. Dans les concours scientifiques, il s'agit plutôt de sommes de 50 000 francs, parfois 100 000 francs, il n'est jamais question d'un million. Enfin, il y avait besoin de cette espèce de jugement de Salomon, c'est-à-dire d'une clause, d'une condition qui serait celle de l'inventeur pour garantir ce que je dis depuis un quart de siècle. Je me demande, en fait, s'il va y avoir des questions et sur quoi elles vont porter. Autrement dit, si je suis complètement à côté de la plaque ou un peu seulement. Je voudrais bien vous passer la parole maintenant, parce que sinon je risque d'ouvrir parenthèse sur parenthèse et ça va nous emmener trop loin. Oui ?
Je voulais savoir si vos brevets tombent aussi, vos brevets concernant l'inviolabilité tombent aussi dans le domaine public.
Absolument, oui.
Oui, d'accord, ouais. Ok. Bon, ben merci.
Puisqu'on a la chance d'avoir quand même l'inventeur en chair et en os là, d'une invention majeure du XXe siècle, on sait que bon, Archimède a découvert son principe dans sa baignoire. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu, en quelques minutes, du processus qui vous a amené à votre idée ?
J'ose pas répondre. J'ose pas répondre parce que ma réponse va être interprétée, risque d'être interprétée, mais enfin tant pis, j'ai déjà fait cette réponse un jour en direct chez Michel Drucker. Donc j'ai eu cette idée en fumant un joint. Alors c'est très embêtant parce que ça, dit comme ça, ça peut donner l'impression d'une espèce de recette pour devenir milliardaire, il n'y a qu'à se droguer. Évidemment pas, mais par contre, c'est la réalité, donc je peux pas mentir, puis je suis assez partisan qu'on arrête d'être hypocrite sur ce sujet. Enfin bon, voilà, alors, circonstance ponctuelle, ce fameux joint, ça a été dit, ça a déjà fait un battage médiatique il y a 4 ans, quand j'avais sorti ça chez Drucker. Mais concrètement, matériellement, c'était surtout cette période d'incubation sur les problèmes de mémoire dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je gambergeais autour de ça, j'ai trouvé plusieurs idées autour de la mémorisation, du stockage de l'information, quand il y a eu ce fameux soir. Voilà.
Oui, bonjour Monsieur Moreno. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous opposiez à ce que la carte d'identité soit une carte à puce. Il me semble que quelque chose de s'en approchant existe déjà, la carte Sésame Vital, qui, il me semble, à moins que je me trompe, pourra contenir toutes les données sur l'état de santé du patient qui la possède, voire même son ordonnance, et je passe d'autres informations. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Non, vous avez raison, ça ressemble beaucoup. Ce n'est pas une pièce d'état civil. Vous savez que c'est associé au système de gestion des soins et que le but à atteindre, c'est la FSE, feuille de soins électronique, de façon à éviter l'opération fastidieuse consistant à ressaisir les données d'une ordonnance. Alors, toute première erreur qu'il y a dans ce champ, c'est celle qui consiste à croire que la carte d'âme vitale contient des données médicales. Elle ne contient aucune donnée médicale. Elle ne contient que le numéro de sécu. Il est question de la faire évoluer dans une phase 2, puis une phase 3, vers des données médicales. Mais là, je pense que c'est vraiment pas demain à la veille, parce que les médecins ne se laisseront pas faire. Parce que ça risque de conduire à une espèce d'automatisation du diagnostic qui serait... Enfin, du diagnostic et de la prescription, qui serait utile, puisque par exemple, si on a une allergie à la pénicilline, que le médecin soit protégé par l'oubli qu'il en ferait et vous donne un médicament contenant de la pénicilline, mais ça évoluera forcément vers une forme de diagnostic ou de soins automatisés, c'est-à-dire en appuyant sur quelques touches. La combinaison avec la mémoire de la carte donnera une excellente ordonnance. Oui.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce qu'a fait M. Umpich ? Qu'est-ce qu'il a fait à propos des cartes de vœux ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a craqué quelque chose ?
Non, il n'a rien craqué du tout. Il a exploité une... Enfin, il a fait deux choses. Il s'est acheté des cartes vierges, parce qu'il y a... Il n'est pas difficile du tout d'acheter des cartes blanches à puce vierge, et il a mis en œuvre un algorithme mathématique publié en 1988, donc il y a 12 ans, pour introduire une fausse identité, pour créer un client de banque fictif. Donc c'est une forme de détournement, mais qui, en l'occurrence, ne pouvait concerner que des robots. Et d'ailleurs, il n'a pas pu tirer d'argent, par exemple. Et il n'a tiré que des carnets de métro. Donc ça n'allait pas très loin.
Oui. Vous avez dit que c'est un autodidacte et un bricoleur que vous avez inventé la carte à puce. Pourquoi, sinon par intérêt direct, car c'est intéressant que le public sache cela, avez-vous omis de dire que lorsque vous avez déposé le brevet le 25 mars 1974, le brevet de base, vous ne vous êtes pas déclaré l'inventeur, mais seulement le déposant de la demande de brevet? Ce n'est qu'un peu plus tard que vous vous êtes enhardi. Pourquoi, sinon par intérêt, deuxièmement, le plus direct, car c'est intéressant à faire connaître au public, avez-vous omis de dire que vous étiez le secrétaire général d'une association fondée en 1972, c'est-à-dire 2 ans avant le fameux brevet, et cela avec 3 autres personnes, association qui, au terme de ses statuts, procédait par enquête tous azimuts et n'était nullement tournée vers la carte à puce, mais vers toute innovation. J'ai les statuts ici de l'association pour ceux qui seraient plus intéressés. Hein ? Enfin, pourquoi avez-vous omis de dire, sinon par intérêt, parce que c'est quand même une information intéressante à faire connaître au public, que depuis 1995, une action en justice est engagée par un ingénieur de France Télécom. Tiens, de France Télécom, c'est curieux. À l'époque, du chef d'usurpation de la qualité du titre d'inventeur. Et une action au civil a été engagée également en 1997 en revendication de la propriété du brevet. L'ingénieur estime que son invention a été connue par la dite association, dont vous n'avez pas fait connaître l'existence, dont je viens de parler, au cours d'une de ces enquêtes, dont vous ne parlez pas, et que d'autres personnes certainement connaissent. Il faudrait faire appel au public.
Dites, j'ai oublié votre nom, mais je vois très bien qui vous êtes.
L'obligation de secret professionnel n'a pas été respectée. Alors, à vous la parole.
J'ai... Non, je...
Les vrais inventeurs doivent être respectés. Les vrais inventeurs doivent être respectés. C'est une chose que monsieur ne savait pas.
voulez répondre à la question suivante ?
Oui, je vais prendre les questions suivantes, parce que ça, c'est...
Question suivante, alors.
J'en ai une ici, là, sur votre gauche. Là.
Allez-y. Ici. Chut, s'il vous plaît.
Il va y avoir, au moment de, pour l'introduction de l'euro, on va introduire le porte-monnaie électronique en France. Où ça va être un moyen de... avant, c'était l'État ou le souverain qui frappait monnaie. Est-ce que ce moyen-là n'est pas un moyen de privatisation de la monnaie ?
Ah, c'est sûr qu'il y a un danger très réel avec la notion de porte-monnaie électronique. J'explique rapidement. Donc, une carte bleue, ce n'est absolument pas quelque chose qui comporte de la monnaie. C'est juste un chéquier électronique. Par contre, le porte-monnaie électronique, lui, sera un équivalent monétaire. C'est une aventure sur laquelle je suis personnellement très réservé. Je pense que c'est très très risqué. Je sais que ça a très peu de succès dans les pays où ça a été expérimenté, que les gens s'en servent peu et pour cause, puisque nous aurons toujours de l'argent liquide pour acheter, je vais dire, une baguette de pain ou un journal, et nous aurons toujours une carte de crédit pour acheter un objet à 500 francs ou à 1000 francs. Donc ça ne laisse, pour ce qu'on appelle le porte-monnaie électronique, que les achats aux environs de 200 francs. Donc c'est pas très encourageant. Alors, ils ont été expérimentés à Tours sous le nom de Moneo. L'un d'eux a été expérimenté. En Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, sous le nom de Geldkarte. Ils ne sont pas utilisés. Ce qui me paraît normal. Hein. Personnellement, je vois pas l'intérêt pour chacun d'entre nous d'avoir un porte-monnaie électronique, puisqu'on aura toujours de l'argent liquide. Dans 1000 ans, je suis sûr qu'on aura encore des pièces et des billets. Et alors maintenant, donc, ce risque de perte de souveraineté, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, le risque le plus grand sera celui d'un échec cryptographique du porte-monnaie. J'étais frappé tout à l'heure lorsqu'il était question de la prochaine conférence qui aura lieu sur la cryptographie. C'est une des sciences importantes qui sont apparues dans les années 90. Eh bien, c'est que simplement, s'il y a de la fraude sur le porte-monnaie électronique, c'est la masse monétaire elle-même qui va changer. Et donc, il faudra, en cas de risque, enfin en cas de fraude détectée, il faudra arrêter tout. Donc, je ne suis pas un militant, vous l'avez compris, du porte-monnaie électronique.
Oui.
Pourquoi le choix du silicium ? Est-ce que c'est pour des raisons de bon marché ? Est-ce que c'est pour des raisons de facilité de gravure ? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres matériaux susceptibles de le remplacer ?
Là, je sors de mon champ de compétences. Je pense que c'est pas qu'il y a un autre matériau. C'est le seul avec lequel, enfin, à part l'arsénure de gallium et le saphir, c'est le seul avec lequel on soit arrivé à faire des semi-conducteurs. Et quand on parle parfois de biopuces, il s'agit de remplacer tout à fait cette matière complètement minérale qu'est le silicium par une matière organique, mais organisée de façon entièrement différente.
Oui.
Oui, si vous permettez une parenthèse pour revenir au sujet qui nous a attiré ici et dont vous venez de parler à l'instant. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous fait dire que les biopuces sont une chimère. Faites-vous des recherches là-dessus. Pouvez-vous nous faire un peu de prospective dans ce domaine-là ?
J'ai pas compris qui est une chimère.
Les biopuces.
Les biopuces, oui, d'accord. Oui. Non, je voulais pas dire que c'était une chimère, je voulais dire que c'était un phénomène journalistique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Je n'ai pas connaissance que les grands de la microélectronique, que sont Intel, Texas Instruments, etc., travaillent sur les biopuces. Je pense que c'est un domaine qui doit être encore universitaire. Parce que c'est trop différent du circuit intégré lui-même. Je ne suis pas contre le moins du monde. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne seront accessibles qu'à l'intelligence humaine. Donc, on ferait peut-être mieux de le... Mais songez au temps qu'il nous faut, par exemple, pour additionner dans notre tête 24 et 17, il nous faut à peu près une seconde. C'est, voilà, la performance de l'intelligence humaine, elle est... elle est à des millions de facteurs inférieurs à la technologie électronique. Oui ?
Oui, dans cette réalisation matérielle, est-ce que l'on pourrait remplacer la carte par une bague, par exemple? Parce que je vous ai entendu parler autre part en disant que ce fameux soir, vous ne saviez pas si ça allait être une carte plane ou si ça n'allait pas être une bague. Y a-t-il une contre-indication physique?
Non. Moi, c'était ma première idée, c'était une bague, tout simplement parce qu'on l'a toujours sur soi, on n'a même pas besoin de l'enlever pour se laver les mains, des trucs comme ça, c'est très commode. Et si elle devait servir, par exemple, comme dossier médical, ben, ce serait bien plus malin d'avoir ça attaché à son corps plutôt que de se souvenir de la poche, dans quelle poche, de quelle veste on a laissé sa carte. J'en ai été éliminé tout de suite par la première présentation de l'invention ce jour de février 1974, où il y a deux ou trois banquiers qui m'ont dit aussitôt: oubliez ça, oubliez votre histoire de bague, faites comme tout le monde, prenez une carte de crédit, et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été question de la bague.
Oui.
Bonsoir, monsieur. Étant étranger, je suis très intéressé par les appellations de puces et biopuces. Tout à l'heure, j'ai regardé sur l'écran la carte. Je n'ai trouvé aucune ressemblance entre la carte et la puce. Quelle est la motivation de nommer cette carte par le nom de puce? Est-ce qu'il s'agit de cet insecte qui pique? D'ailleurs, vous avez dit que en anglais, on l'appelle
chip card.
Chip. Est-ce que chip veut dire une puce?
Non,
est-ce une culture particulière de la France, puisque j'ai entendu très souvent marcher aux puces, ou bien puce à l'oreille. Donc, au Japon, on dit tout simplement chips. Donc, je trouve que c'est très sympathique de nommer, d'utiliser le nom puce, mais voulez-vous bien m'expliquer pourquoi? Et puis tout à l'heure, vous avez dit biopuce. Comme puce est déjà vivant, est-ce qu'il n'y a pas de redondance de dire biopuce? Merci, monsieur.
Je sais pas comment ça se dit en allemand ou en espagnol. Donc ça, c'est un débat qu'on peut considérer comme marginal. Et c'est vrai que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en montrant cette carte qu'on a vue sur l'écran, c'est qu'elle est juste recouverte par une illustration qui montre un fragment de circuit intégré, autrement dit de puce. Hein, mais ce n'est absolument pas la carte elle-même. C'est une image, quoi. Hein. Ce n'est pas plus qu'une image.
Oui. Attendez, s'il vous plaît, attendez le micro.
J'ai été assez surpris de deux observations que vous avez faites sur la mémoire humaine. D'abord, le rôle de la volonté dans la mémoire, il me semble que ce rôle est assez évident. Si vous n'aviez pas signalé, fait remarquer que vous portiez une veste jaune, je suis certain que si on avait interrogé les personnes ici présentes dans 48 heures, personne ne serait souvenu de la couleur de votre veste. Donc c'est parce que vous avez attiré l'attention sur ce fait que tout le monde s'en souvient. Les psychologues, je crois, savent que nous oublions les faits qui sont pas relevants, qui ne sont pas très importants, et que nous nous souvenons au contraire des choses importantes.
Non.
Et quand nous voulons nous souvenir de quelque chose, il y a beaucoup plus de chances qu'on s'en souviendra que si on laisse passer la chose d'une manière indifférente. C'est le problème du renforcement de la mémoire qui est bien connu, je crois, en psychologie. La seconde observation que vous aviez faite au sujet de la mémoire, c'est que la mémoire humaine est infinie. Je suis assez surpris, je voudrais savoir sur quelle évidence expérimentale se base cette affirmation, parce qu'il est bien connu qu'il y a des phénomènes de compétitivité dans la mémoire. Si vous cherchez à apprendre l'italien, et une fois que vous connaissez l'italien, vous essayez d'apprendre l'espagnol, vous oublierez l'italien. Mais si par contre, après avoir appris l'italien, vous essayez d'apprendre l'allemand, vous vous souviendrez des deux langues. Il n'y a pas de compétition entre les deux, parce qu'il s'agit de phénomènes de mémoire qui se trouvent dans un site, dans des sites très voisins ou même coextensifs. Merci.
Oui, non, c'est évident qu'il y a un abus de langage à parler d'infini. Hein. C'est sûr, je sais que devant un public de puriste ou de mathématicien. Évidemment, il n'est pas question de parler d'infini, il faut dire quasi-infini ou très grand, hein. Simplement, c'est infini au sens où on peut toujours ajouter à un grand nombre une unité et elle tient. C'était ça l'exemple que je n'ai donné, mais je n'ai aucune preuve expérimentale de ça. Ça relève de la conversation de salon, hein. Ce sont juste des impressions, mais je maintiens quand même que cette histoire de veste jaune est acceptable comme argument. Supposons que vous ayez mangé à midi des saucisses frites, je pense que dans 3 jours, vous l'aurez oublié. Et que si vous vous en souvenez encore dans 3 jours, vous n'aurez toujours pas le moyen de chasser ce souvenir. Donc ce n'est pas forcément sur un détail vestimentaire, je veux dire quelque chose qui vous a concerné de près pendant les 20 minutes où vous avez mangé vos saucisses frites. La certitude de vous en souvenir n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est le problème de la générale de la pédagogie. Si on savait comment maîtriser la mémoire, les étudiants auraient tous leurs examens à chaque coup.
Oui.
Vous avez mentionné, la création de la démocratie, la lente création pendant des centaines d'années. Et donc votre respect de certains processus humains et face à ça, cependant, comment vous voyez-vous comme inventeur votre propre invention et qui, à mon avis, est un peu annonciatrice de ce que pourra être le 21e siècle face à ce qui a été les inventions un tout petit peu mastoc du 19e et du 20e siècle, pour être un tout petit peu injuste, je l'avoue. C'est-à-dire, quelle est votre vision de votre invention insérée dans les types de civilisation qui est en train de changer et votre vision de l'avenir, pour un tout petit peu.
Ouais. C'est vraiment une toute petite chose, la carte à puce, par rapport aux inventions mastoc dont vous avez parlé, hein, qui peuvent être la radioactivité, la pénicilline, enfin des. Oui, oui. C'est sûr, là, je crois que ça correspond. Je reprends l'exemple de la contraception, chose qui a séparer l'histoire de l'humanité en deux. Ça faisait 900 000 ans qu'on faisait autrement, et puis à partir de 1960, on a pu se contenter de prendre une pilule. En voilà une invention mastoc, une invention importante. Non, la puce, c'est très peu de choses. La carte à puce, c'est très peu de choses à côté. Mais par contre, elle arrive bien dans ce moment de l'histoire, un peu en avance, où les sciences de l'information vont tout envahir. Donc elle arrive juste avant le Minitel, ou en même temps que le Minitel, sur la fin du XXe siècle. Donc l'ordinateur personnel que nous avons maintenant tous, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera demain matin avec Internet. Donc ça me paraît annonciateur de ça, parce qu'au cœur de la carte à puce, il y a effectivement de l'information et du traitement de l'information. Il y a une toute petite dose d'intelligence, enfin, il faut dire ça avec des guillemets, parce que c'est l'intelligence vraiment rustique, mais la carte prend la décision. Elle prend la décision de parler ou de se taire, et vous savez peut-être, je n'ai pas donné ce détail tout à l'heure, mais le quatrième de mes brevets, celui qui est le plus pittoresque, décrit le suicide de la carte au bout de 3 erreurs de code. Là, on est vraiment dans l'anthropomorphisme, puisque j'imagine donc un individu malveillant qui veut attaquer une carte, qui essaye un premier code, elle refuse. Un deuxième code, elle refuse. Si au troisième code, elle refuse encore, la carte peut se dire qu'elle est en situation de danger et qu'il vaut mieux qu'elle se suicide plutôt que de continuer à exister. Et bon, Dieu merci, donc ce brevet a eu beaucoup de succès et nous y sommes confrontés tous les jours lorsque nous faisons nous aussi des erreurs avec la carte. Et donc il y a cette espèce d'embryon d'intelligence, c'est vrai, portatif, vraiment dans la poche, sous la forme la plus démocratique qui soit. Prenez un PC ou un Macintosh, ce sont d'autres formes d'intelligence, mais beaucoup plus grosses, beaucoup plus prégnantes par rapport à notre univers.
Une dernière question. Oui, allez-y.
Bonjour, monsieur. Quelle est la quantité d'informations qu'on peut enregistrer dans une télécarte, dans une carte à puce, je veux dire. Je pense à la carte vitale. Est-ce qu'on peut avoir la même carte vitale de la naissance jusqu'au cercueil et inscrire dedans toutes les visites médicales, toutes les petites maladies, les bobos, etc., avoir dans une seule carte avec une seule puce?
Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, une carte téléphone, ça contient 32 caractères. Ce n'est pas lourd. Une carte bancaire, ça va être 4000 caractères. Et aujourd'hui, la science et l'industrie des circuits intégrés permettraient complètement d'avoir, 4 millions de caractères, c'est-à-dire le contenu de toutes vos ordonnances et de toutes vos feuilles de maladie. Mais le besoin ne s'en fait pas sentir à l'instant T, c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas, mais industriellement et mécaniquement, ça se peut. Ça se peut, mais vous avez tout à fait raison de soulever ce point, parce qu'en réalité, cette carte Sésame Vital, cette carte de santé, la partie la plus difficile, et c'est la raison pour laquelle j'y crois personnellement si peu, c'est que ça va consister à normaliser des images, des choses importantes de notre cursus sanitaire, ce sont les images, les radios du poumon, les radios des hanches, les radios de tout ça, qui occupent une place considérable. Et il va falloir normaliser cette façon de les enregistrer pour exploiter ces données. Mais on le pourra, et on peut le faire dès aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de prix. Je pense qu'une carte de type de celle que je viens de mentionner coûterait peut-être 300 francs comme prix industriel. Je vous ai dit qu'une carte téléphone, ça coûte 2 francs. Non, mais ce n'est vraiment qu'une question de prix.
Je vous remercie.